Salut et bienvenue à Mauvaise Augure, un podcast où on explore des crimes atroces, des dossiers non résolus, du paranormal et bien plus encore. C'est moi, votre hôte Frédéric, de retour de vacances, qui, d'après moi, était plus que mérité après 3 ans. C'est pas pour me vanter, mais je pense que j'étais près du burn-out. Non, mais sérieusement, prenez soin de vous et de vos proches. La vie, c'est fragile et la santé mentale, c'est très important. Tout ça pour vous dire que j'ai pas publié autant que je voudrais dans les derniers mois, mais ça, c'est chose du passé. Je suis frais et dispo et j'ai beaucoup de matériel de préparer, donc restez à l'affût. Mais si vous voulez pas rester à l'affût 24 heures sur 24 à côté de votre téléphone pour voir si j'ai pas publié un épisode, vous pouvez simplement vous abonner au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Rien de plus simple, vous allez avoir les notifications et pouvoir dormir sur vos deux oreilles. La liste des dossiers et des sujets que je veux faire en épisode éventuellement ne cesse de s'agrandir. Et croyez-moi, depuis le temps, c'est pas une petite liste. Mais à l'occasion, je découvre des histoires qui me bouleversent assez que ça se retrouve tout en haut de la liste. Et c'est le cas de l'épisode que je vous présente aujourd'hui. L'histoire que je vous présente aujourd'hui est particulièrement frustrante et déchirante. Une personne exceptionnelle avec une bonté incomparable qui apportait que du bien autour d'elle a croisé le chemin de 4 astis de trou de cul. Et ça, c'est sans parler du manque de professionnalisme des personnes responsables de l'enquête. 2020, aux États-Unis, dans la ville de Charlotte, qui se situe dans l'État de la Caroline du Nord. C'est une ville qui est composée d'environ 879 000 habitants. J'ai été surpris d'apprendre, mais côté finance et bourse, c'est la deuxième ville où c'est que ça se passe aux États-Unis après New York. Pour vous aider à mieux comprendre le contexte, je crois que le mieux à faire, c'est de débuter en vous présentant qui était la victime. Son nom, c'est Mary Collins. C'est une magnifique jeune femme. Elle était âgée de 20 ans au moment de sa mort. Ses proches l'ont décrit comme étant une personne enjouée, chaleureuse et généreuse. Elle était aussi timide, attachante et maladroite. Elle adorait écouter de la musique et visionner des films, particulièrement les films d'horreur. Comme bien des jeunes femmes de son âge, elle aimait aussi les vêtements, la mode ainsi que le maquillage. Elle semblait avoir un penchant pour l'art. Quand elle pratiquait la guitare, elle aimait la photographie ainsi que dessiner et écrire. Elle appréciait aussi la cuisine et tester des nouvelles recettes. Les gens qui ont eu la chance de la côtoyer ont déclaré qu'elle dégageait une énergie très particulière. Ses amis ont même dit qu'elle était comme une fée. Toujours positive, elle voyait que le bon côté des choses. Mais Mary était très naïve et influençable. N'ayant aucune malice et étant une très bonne personne, elle croyait que tous les gens autour d'elle étaient bien intentionnés. Vous avez sûrement déjà compris que Mary n'était pas comme vous et moi. Alors qu'elle était très jeune, les docteurs ont découvert que Mary était atteinte d'un désordre génétique. Ce désordre se nomme le syndrome de délétion 22Q11. J'imagine que comme moi avant mes recherches, ça vous dit pas grand-chose. C'est aussi communément appelé le syndrome de Digeorge ou le syndrome vélo-cardio-facial. Ça vous dit sûrement pas grand-chose encore une fois. Il y a environ un enfant sur 4000 qui naît avec cette maladie. Et ça touche principalement le chromosome 22. C'est la deuxième maladie la plus répandue de ce genre après la trisomie 21, ou communément appelée le syndrome de Down. N'oubliez pas que je ne suis qu'un podcasteur et non un psychiatre, donc je vais expliquer du mieux que je peux. Le syndrome de délétion 22 est une maladie qui peut entraîner des problèmes de santé très sérieux. Et ça, que ce soit psychologique ou physiologique, tels que des problèmes immunitaires, des malformations du squelette, il y aurait environ 75% des personnes qui sont atteintes qui auraient des malformations cardiaques, et ça, bien évidemment, ça entraîne des problèmes très sérieux. Il y a près de 70% des enfants qui naissent avec la maladie qui ont aussi une malformation dans la partie supérieure de la bouche, ou le palais. Les personnes qui en sont atteintes peuvent avoir de gros problèmes d'élocution, ainsi que des problèmes pour avaler de la nourriture, ainsi que des liquides. Il y a environ 30% de ces enfants qui naissent avec des problèmes rénaux. Pour ce qui est du côté psychologique, les enfants qui sont atteints du syndrome ont souvent des troubles d'apprentissage ou des déficits intellectuels. Et pour le cas de Marie, malgré le fait qu'elle était début vingtaine au moment de sa mort, sa famille a déclaré que psychologiquement, elle avait l'âge mental d'un enfant de 14 ou 15 ans. Et dans certains domaines, ça pouvait être moins que ça même. Et elle avait beaucoup de difficultés avec certaines tâches de la vie normale, telles que compter sa monnaie, et elle n'avait pas un bon sens de l'orientation. Mary ne pouvait pas se diriger dans les rues sans l'aide d'une personne, ou au moins à l'aide d'une application de géolocalisation. Bon, je sais bien que de nos jours, tout le monde se sert d'un GPS, mais pour Mary, c'était vraiment important, car même dans son voisinage immédiat, elle pouvait se perdre. Elle est aussi née avec une malformation au palais quand même très sérieuse. Je sais qu'elle a subi au moins une chirurgie étant plus jeune pour tenter de fixer son problème au palais. Mais ensuite, les docteurs ont annoncé aux proches de Mary qu'elle n'aurait peut-être jamais la capacité de s'exprimer verbalement. Étant très jeune, Mary a appris à communiquer par signe avec ses proches. Contre toute attente, alors qu'elle est environ âgée de 6 ans, elle a commencé à tenter de parler. Évidemment, au départ, c'était très difficile de discerner ce qu'elle voulait dire, spécialement pour des gens qui n'avaient pas l'habitude de l'entendre parler. Elle a progressé très rapidement car elle se pratiquait et persévérait sans relâche. Et après un certain temps, elle était capable de communiquer verbalement avec n'importe qui. Mary n'a jamais manqué de support et d'aide provenant des gens autour d'elle. Sa famille et ses proches ont toujours été là pour la supporter. Ses proches immédiats ont même avoué être surprotecteurs. Et que Mary, maintenant, à l'âge adulte, trouvait ça un peu ennuyant et voulait plus de liberté. En grandissant, Mary a principalement habité avec sa grand-mère, vu que c'est un endroit qui convenait plus à ses besoins. J'ai vu une entrevue télévisée avec sa grand-mère qui se nomme Mia Alderman, et ce qu'elle a déclaré, j'ai trouvé ça vraiment beau. Ça va comme suit. Tenter de décrire Marie, c'est comme tenter de décrire l'or. Il n'y a pas assez d'adjectifs pour décrire comment c'est une personne exceptionnelle. Comme je l'ai mentionné, c'est en 2020, la journée du 28 mars, et Mary est en train de se préparer pour aller passer la soirée à écouter des films chez deux personnes qu'elle connaît. Des gens qui n'étaient pas vraiment dans son cercle d'amis, mais c'était plutôt des connaissances. Une femme du nom de Kelly Lavery, qui est âgée de 24 ans à l'époque, et un jeune homme qui lui se nomme Levy Pham, et qui est âgé de 21 ans. Ces deux charmants jeunes adultes étaient des sans-emploi qui, dans leur temps libre, prenaient de la drogue. Et ils avaient beaucoup de temps libre, donc ils prenaient beaucoup de drogue. D'après leur tenue vestimentaire, ça semblait des gens qui appréciaient la culture gothique. C'est pas très clair dans toute la documentation que j'ai lue, mais je sais pas si c'était un couple, mais les deux baisaient ensemble et habitaient ensemble. Tout ça dans un bel appartement d'un immeuble qui se trouve dans une communauté fermée. Pour ceux qui savent pas c'est quoi ça, c'est des petits quartiers pour des gens privilégiés qui sont clôturés avec seulement un accès qui est gardé par un agent de sécurité. Cette petite communauté se trouve dans le quartier universitaire de Charlotte qui se nomme le North Davidson ou le NODA pour faire plus court. Ça se trouve à environ une vingtaine de minutes en voiture de chez Mary. Je vais revenir un peu plus tard dans l'épisode avec la description de ces deux individus-là. Pour l'instant, je veux continuer avec la suite des événements. Je tiens à vous rappeler que à cette époque-là, c'est en plein début de pandémie COVID-19 power. Donc, la grand-mère de Mary n'était pas très enchantée par les plans que sa petite fille avait pour la soirée. Et sans oublier que Kelly Lavery et Levy Pham lui inspiraient vraiment pas confiance. Mais Mary a refusé et sa grand-mère n'a pas trop insisté vu que Mary voulait voler maintenant de ses propres ailes et prendre ses propres décisions. N'étant pas en mesure de se déplacer seule dû à sa condition, le couple lui avait même commandé un service de voiturage pour aller la prendre chez elle et la conduire jusqu'à leur appartement. C'est dans les alentours de 2h30 en après-midi que Mary quitta son domicile. Après un certain temps, Maya, sa grand-mère qui s'inquiétait un peu, examina la localisation du téléphone personnel de Mary. D'après le signalement, elle se trouvait bien chez le couple. Les heures s'écoulèrent et la soirée tira à sa fin. Mais Mary n'avait toujours pas donné de nouvelles. Donc sa grand-mère et sa grande sœur tentèrent de la joindre par texte et de l'appeler. Mais chaque fois, il n'y avait aucune réponse. Maya, en tentant de se convaincre, s'est alors dit que Mary avait sûrement oublié de charger sa batterie de cellulaire et qu'elle avait décidé de passer la nuit chez ses amis. Le lendemain matin, le 29 mars, toujours pas de nouvelles. La grande sœur de Mary a envoyé un texte à Kelly Lavery qui disait que Mary devait rappeler immédiatement ce numéro de téléphone-là et que c'était super important. Mais Kelly Lavery n'a jamais répondu à ce texte. Plus tard dans la journée, alors que tous les proches de Mary se faisaient un sang d'encre, y a quelqu'un qui a pu remarquer que Lavey Femme avait publié quelques courts enregistrements vidéo sur la plateforme Twitter dans lesquels on pouvait voir Mary. Dans un des extraits vidéo, on peut apercevoir Femme, c'est lui qui, à l'aide de son téléphone, enregistre. Avec l'autre main, il tient un sac de sushi, qui est la nourriture préférée de Mary. On peut voir Mary à l'arrière qui est accompagnée de Kelly et les trois sont dans le corridor principal de l'immeuble à appartement où ce que le couple habitait. Dans une autre séquence qui semble encore une fois tout à fait normale, on peut apercevoir le trio qui cette fois se trouve, je crois, dans un ascenseur. Il n'y a rien d'étrange ou de suspect dans ces vidéos-là. On peut voir que tout le monde semble heureux et sourit à la caméra. Et c'était ça le but en les publiant. Car ça avait été planifié et orchestré pour tenter de brouiller les pistes en démontrant que Mary avait du plaisir avec eux. Et que si par hasard, je dis bien par hasard, quelque chose venait à lui arriver, Lavey Femme et Kelly Lavery ne seraient pas suspectés. Leur plan a fonctionné car les proches de Mary, après avoir visionné ces enregistrements-là, se sentaient un peu plus rassurés. Mais croyez-moi, ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, en début de soirée, l'inquiétude était palpable. Il y a un autre texte qui sera envoyé à Kelly Lavery disant que le cellulaire de Mary était inactif et qu'il y avait une urgence familiale que c'était super important qu'elle rappelle dans les plus brefs délais. Et encore une fois, Kelly ne répondra pas à ce texte non plus. Le lendemain, le 30 mars matin, toujours sans nouvelles de Mary et après deux nuits sans sommeil, Maya savait que quelque chose de très sérieux s'était produit. Ne pouvant plus rester une minute de plus sans rien faire, elle voulait des réponses à ses questions et se rendit chez Lavery et Femme. Une fois sur place, elle a eu beaucoup de difficultés à pouvoir pénétrer le périmètre de sécurité de la communauté. Rendue devant leur porte d'entrée, elle frappa à de maintes reprises, mais elle n'obtint aucune réponse. Il a failli qu'elle menace d'appeler les policiers pour que, finalement, Lavery se présente. Kelly Lavery a pris un air surpris, comme si elle ne savait pas pourquoi Maya se trouvait là. Elle lui a déclaré n'avoir aucune idée d'où se trouvait Mary, qu'elle a quitté l'autre soir après avoir visionné des films et que depuis, elle n'avait aucune nouvelle. Pour démontrer ses bonnes intentions, Lavery accepta que Maya fasse le tour de l'appartement pour jeter un œil si ça pouvait la rassurer. Étrangement, Kelly refusait que Maya inspecte une des chambres à coucher. Une dispute s'en est suivie et Maya n'a pas eu d'autre choix que de quitter. En panique et désespérée car elle était certaine que Mary se trouvait encore dans l'appartement, elle décida de contacter le 911 pour expliquer la situation. Elle demanda aussi qu'une patrouille vienne sur les lieux pour éclaircir tout ça. Mais malheureusement, les autorités ont jugé que son appel n'était pas important et n'ont pas donné suite à sa requête. Une autre longue journée s'écoula sans aucune nouvelle de Mary. C'est en soirée, plusieurs heures après son premier appel fait au 911, que les autorités finiront par remplir un rapport de personnes disparues. Semble-t-il qu'ils n'ont pas compris la gravité de la situation, qu'en rapport pour les formalités, ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils ont même pas vu nécessaire de lancer une alerte Silver. L'alerte Silver, c'est quoi? C'est un peu le même genre que l'alerte Amber pour les enfants. Pour ce qui est de l'alerte Silver, ça a été créé pour les personnes âgées qui sont atteintes d'Alzheimer, de démence et autres problèmes de santé mentale. Mais maintenant, l'alerte peut être lancée pour des gens n'importe quel âge qui sont vulnérables et qui ont des problèmes psychologiques. N'ayant tout de même pas le choix d'en faire un minimum, il y a un officier qui sera envoyé à l'appartement de Lavery et de Pham. Une fois rendu sur place, soit le couple n'était pas là, ou soit l'agent a cogné à la porte d'entrée en timide. Il a obtenu aucune réponse et il est reparti sans se badrer d'y retourner. Je ne sais pas si ça a été certifié, mais avec la suite des événements, je serais même pas surpris qu'il y ait aucun policier qui ait été à l'appartement. Et ensuite, on a le légendaire Jonathan Gaskin qui entre en jeu. Un enquêteur qui s'est attitré le dossier de Mary. Un vrai crise de crétin, laissez-moi vous dire. Même après avoir été mis au courant sur l'état de santé mentale de Mary, il avait pas l'air de comprendre la détresse et l'inquiétude provenant des gens qui la cherchaient. Et comme le professionnel qu'il est, M. Gaskin n'a pas vu nécessaire de se déplacer en personne pour aller inspecter l'appartement du couple. Je suis pas un enquêteur, mais c'est quand même le dernier endroit connu où Mary se trouvait avant de disparaître. Non, Gaskin a répondu à Maya. « Madame, c'est la pandémie, je connais mon travail et je vous affirme que je peux faire ça à distance. » Il a aussi ajouté que si elle voulait, elle pouvait rappeler au 911 et demander à un agent qui se déplace à l'appartement. Et c'est ça qu'elle a fait. Donc Maya, Casey Del Piso, qui est la mère de Marie, ainsi qu'un de ses amis, se sont rendus à l'appartement du couple. Il y a un policier qui est allé les rejoindre sur place. C'est Lavey Pham qui les a accueillis à la porte et... Il était coopératif, mais il a quand même refusé que le groupe ainsi que l'officier fouillent la place. Après avoir discuté, ils sont venus à un terrain d'entente. Il y a seulement Casey qui pouvait entrer dans l'appartement pour jeter un œil. Une fois à l'intérieur, tout semblait normal. Dans une des chambres du fond, elle a pu remarquer une silhouette couchée sur le lit. Pham lui a alors répondu que c'était Lavery qui se reposait. Ça s'est pas mal terminé là. Casey et Maya sont repartis sans aucune réponse à leurs nombreuses questions. Depuis le 28 mars, il n'y avait aucune transaction d'effectuée dans le compte bancaire de Mary. Elle ne s'était pas connectée non plus sur les réseaux sociaux, ce qu'elle faisait régulièrement. Du côté de son cellulaire, il n'y avait aucune activité non plus. Et quand ses proches tentaient de la rejoindre, c'est la boîte vocale qui embarquait immédiatement. Ça, c'est sans compter le fait qu'elle avait brisé ses lunettes de vision quelques jours avant et que sans leur aide, elle ne voyait pas grand-chose de loin. De l'argent, un téléphone cellulaire, puis des lunettes de vision, c'est trois objets qui, dans notre société moderne, sont vraiment rendus une nécessité. Et n'importe quelle personne aux capacités motrices normales aurait de la misère à fonctionner sans l'aide d'un de ces éléments. Ça, c'est sans parler des trois en même temps, ce qui était le cas pour Mary. C'était une situation tout à fait anormale pour la famille de Mary. Il était évident pour eux que quelque chose de sinistre s'était produit à l'appartement du couple. Voyant l'incompétence des policiers, les proches de Mary faisaient tout en leur pouvoir pour tenter de la retrouver. Organisant des recherches dans la région, distribuant des avis de disparition, étant aussi actifs sur les réseaux sociaux pour informer le plus de gens possible. La mère et la grand-mère de Mary faisaient même la surveillance constante de l'appartement où habitaient Pham et Lavery. Mais ils ont dû mettre fin à cette activité quand que le détective Gaskin les avertit que le couple voulait porter plainte pour harcèlement ou je sais plus trop quelle charge. Le 1er avril, la famille et les proches de Mary continuaient à tout faire en leur pouvoir pour tenter de la retrouver. Mais encore une fois, leur effort fut sans résultat. Le lendemain, le 2 avril, 6 jours après sa disparition, il y a une personne qui a contacté les autorités pour leur déclarer que Mary avait possiblement été battue et tuée à l'appartement de Lavery et Pham. Cette personne a aussi déclaré que le cadavre avait été dissimulé à l'intérieur d'un matelas qui se trouvait encore sur place. Ça a pris tout ce temps-là et un témoin pour que finalement les policiers activent un peu. Mais pas trop. Il y a des policiers qui se sont rendus à l'appartement, mais sans mandat, rien. Lévi femme, qui était seule sur les lieux à ce moment-là, était coopératif et les a même laissé faire une fouille sommaire des lieux. Devant les policiers, femme a même soulevé le matelas dans lequel, semble-t-il, Mary avait été dissimulée. Les officiers n'ont rien remarqué d'anormal. Ici, maintenant, on a deux choix qui s'offrent à nous. C'est soit qu'ils ont tué Mary et qu'ils ont eu le temps de changer de matelas, ou deux, que la personne qui a contacté les autorités a raconté de la merde et que Mary ne s'est jamais trouvée dissimulée dans ce matelas. Je vous laisse le temps de faire votre choix. Et j'espère que c'est fait, car la réponse, c'est aucune des deux. C'est. Les policiers qui ont inspecté le matelas, c'est des vraies crises d'incompétents. Car le corps sans vie de Mary était bel et bien dissimulé dans le matelas au moment de la fouille. Et je tiens à préciser que le renseignement qu'ils ont eu de la personne, c'était que Mary était dissimulée dans le matelas. Suite à ça, les policiers donneront une conférence de presse pour tenter de se justifier, de se sauver la face, en donnant des raisons qui font pas de sens, car il y avait juste à toucher au matelas ou à le tâter un peu et il aurait bien vu que le corps de Mary y était. Monsieur l'enquêteur Gaskin revient à la charge et se fait un plaisir de contacter les proches de Mary pour les informer que leur fouille, que je dirais plus que sommaire, n'avait donné aucun résultat et d'arrêter d'harceler le couple. Démontrant encore une fois qu'il ne prenait vraiment pas la disparition de Mary Collins au sérieux. Deux jours vont s'écouler pour que le 4 avril, il y ait un deuxième témoin accompagné du premier qui se rende à la centrale de police. C'est ça, la deuxième personne a déclaré un peu la même chose que la première, tout ça en donnant un peu plus de détails. Et cette personne l'aurait appris d'un individu qui se nomme James Salerno. Salerno? Whatever. Semble-t-il que James lui aurait dit être présent quand Mary s'est fait tuer à l'appartement par femme et Kaylee Lavery. Et qu'au moment de sa mort, lui se trouvait dans une des chambres à coucher et n'avait rien à voir dans l'histoire. Il a simplement aidé à nettoyer et à cacher le cadavre. Et qu'il ne restait plus qu'à sortir le matelas et aller le brûler dans un endroit isolé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une lumière qui allumera dans le cerveau des policiers. Il a fallu tout ce temps-là et deux témoins pour que finalement ils prennent le dossier un peu au sérieux. Ils ont demandé un mandat pour aller faire une vraie fouille des lieux. Ils ont inspecté le dit matelas de plus près et ont pu observer que le matelas avait été recousu. Et le cadavre de Mary était encore caché à l'intérieur. Son corps était partiellement nu. Et avait été très bien dissimulé, enveloppé dans de nombreuses couches de pellicule plastique ainsi que de sacs à ordures. Avec le cadavre, ils avaient placé du détergent ainsi que du savon parfumé pour masquer l'odeur. Lévi femme et Kaylee Lavery seront mis en état d'arrestation sur les lieux. Leur arrestation s'est déroulée sans problème si on enlève le fait qu'ils ont eu un peu plus de misère à passer les menottes à Kaylee Lavery étant donné qu'elle était hors service. Après avoir passé une soirée bien arrosée et saupoudrée. Elle dormait bien dur, puis le réveil a dû être crissement pas facile pour elle, puis c'est bien tant mieux. Il y a deux policiers qui se déplaceront pour aller annoncer la mort de Mary à sa famille. Et non, c'était pas l'enquêteur Gaskin, monsieur responsable de l'enquête. Non, ce fut deux policiers totalement inconnus qui n'avaient rien à faire dans le dossier. C'est peu de temps après que les policiers procéderont à l'arrestation de James Salerno. C'est pas très clair, il y a bien des sources qui prétendent qu'il se serait fait arrêter chez lui. Mais quand il s'est fait arrêter pour les charges de meurtre et de kidnapping, il s'est fait aussi charger pour conduite avec les facultés affaiblies et possession de drogue. Je pense que c'est du cannabis. Ce qui veut dire que s'il s'est fait arrêter chez lui, c'est soit il quittait les lieux ou il arrivait sur place au volant d'un véhicule. Il y a une quatrième personne qui sera aussi suspectée pour la mort de Mary et c'est une jeune femme du nom de America D.L. America D.L. sera aussi appréhendée par les policiers, mais quelques jours plus tard. Pendant ce temps, une autopsie sera pratiquée sur le corps de Mary. Comme je l'ai mentionné, elle avait d'innombrables blessures. Le médecin légiste a compté un minimum de 133 blessures qui ont été causées à l'aide d'une arme blanche. La majorité de ces blessures avaient été causées à la tête, au visage et au torse. Elle avait aussi une lacération très profonde au visage. Ça, c'est sans compter tous les hématomes et les contusions que son corps avait subies. Mais de toutes ces blessures, de plus de 133 coups de couteau, il n'y en avait aucune de mortelle. Ce qui veut dire que Mary est morte au bout de son sang et qu'elle devait être consciente pendant une bonne partie de toutes ses attaques. J'ai complètement oublié de le mentionner dans ma description de Mary au début de l'épisode, mais dû à sa déformation au palais, elle est incapable de crier. Et quand t'es incapable de crier et que tu vis une situation du genre, ça doit être encore plus terrorisant. Après plus de 20 minutes dans ce dossier-là, vous vous demandez sûrement c'est qui ces quatre astis de monstres-là qui ont pu faire du mal à une personne aussi aimable et vulnérable que Mary. On va débuter avec Clavey Pham. Il est né le 22 septembre 1998 et il avait 21 ans au moment des faits. Il ne semble pas avoir eu de problème avec la loi avant ça. Lui et Mary se sont connus étant plus jeunes, alors que les deux fréquentaient le même établissement scolaire. Ils ont eu une brève histoire d'amour d'adolescents. Dû à leurs différents niveaux de maturité, leur histoire n'a pas fonctionné. Après leur rupture, ils sont restés en bon terme sans pour autant rester en contact régulièrement. Et c'est dû à son entremise si Mary a été mise en contact avec les trois autres sous-merdes. Clavey Pham, il vivait comme une rockstar, sauf qu'il avait pas d'argent, il n'y avait pas de contrat, puis il devait sûrement pas jouer de musique. Où c'est que je veux en venir, c'est qu'il avait des problèmes de drogue et qu'il faisait pas grand-chose de sa vie. Pour Kelly Lavery maintenant, une vraie crise de poufiasse, qui en 2020 est âgée de 24 ans. Comme pour Pham, elle aussi ne foutait pas grand-chose. Et elle aussi collectionnait les problèmes de drogue. Dans le cas de Lavery, elle avait déjà eu des démêlés avec la justice en 2019 pour un assaut simple. Vous vous demandez, ouais, mais s'ils foutent à rien et ont des problèmes de drogue, c'est quoi qu'ils font de leur vie? Je vais vous le dire. Pour Kelly Lavery, comme les trois autres suspects, ils viennent tous de familles quand même assez aisées financièrement. Pour Lavery, son père est un architecte prospère avec un compte en banque très bien garni. C'est lui aussi qui payait pour l'appartement dans lequel elle vivait avec Pham. D'après tout ce que j'ai lu sur elle, laissez-moi vous dire que Kelly est un stéréotype de l'enfant privilégié, gâté, pourri et totalement instable. Elle est superficielle et d'après moi, c'est elle le centre de gravité parce qu'elle pense que tout tourne autour d'elle. Voici un exemple d'un des textes qu'elle a envoyé à Mary.
Mes parents sont millionnaires, donc je me dois d'être déplaisante. Est-ce que toi, tes parents sont riches? Est-ce que toi, ton père fait 700 000 $ par année? Je peux traiter les gens comme je veux.
Il y a beaucoup de gens qui croient que Lavery était jalouse de Mary. Avant les événements, il était commun qu'elle la contacte sur les réseaux sociaux. Et le contenu de ses messages était assez dénigrant et insensible. Des textes du genre...
Il y a personne qui t'aime. Si j'étais toi, je voudrais disparaître. T'es rien. T'es une vraie salope stupide.
Et ensuite, elle s'excusait. Son petit jeu de manipulation psychologique avait commencé 3 mois avant les événements. Quand les proches de Mary ont pris connaissance de tout ça, ils lui ont fortement suggéré de se tenir loin de ce genre de personnes. Mais Mary étant une personne très naïve et voyant quel bon côté chez les gens, accepta à chaque fois les excuses que Lavery lui faisait. En faisant mes recherches, j'ai pu remarquer qu'il n'y a pas grand monde qui ont connu Lavery qui ont été surpris quand ils ont su qu'elle avait été arrêtée pour une accusation de meurtre sauvage sur une personne innocente. Elle a partagé à plusieurs personnes qu'elle connaissait qu'elle se demandait c'est quoi qu'on pouvait ressentir quand on tuait quelqu'un. Pour vous démontrer encore que c'est un humain méprisable, dans son livre de finissant d'école, en dessous de sa photo, elle a fait écrire que dans 10 ans, elle allait être plus riche que tout le monde. Mais dans son choix de carrière, c'est écrit incertain. On y va maintenant avec James Salerno. Il est né le 8 septembre de l'an 2000. Il est âgé de 20 ans au moment des faits. Lui et Pham ont grandi sur la même rue et se connaissaient depuis qu'ils étaient tout jeunes. Salerno, c'est un enfant à problème, il avait déjà eu beaucoup de troubles avec la justice avant tout ça. En 2017, il s'est fait arrêter pour vol à main armée, et en 2018, il y a eu plusieurs charges pour des possessions de drogue telles que du cannabis. Un autre crise de vidange, il a grandi dans un quartier bien tranquille et il avait pas une très bonne réputation, même auprès des jeunes de son âge. Un jeune crétin qui tripe bien gros ses guns. C'est ça, les enquêteurs ont analysé les données informatiques du téléphone cellulaire qui lui appartenait. Et d'après le signalement, ils ont pu constater que Salerno se trouvait dans l'appartement du couple le soir du meurtre de Mary, ainsi qu'après les faits. Ils ont aussi analysé les données de son téléphone. Et dans l'application qui sert à prendre des notes, ils ont pu découvrir une liste que Salerno avait faite, qui contenait du javelisant et des produits nettoyants. Et le quatrième suspect, qui se nomme, comme je l'ai dit, America Deal, qui, elle, était âgée de 19 ans au moment des faits. Elle est née le 13 octobre 2001 et elle n'avait pas aucun lien vraiment avec les autres personnes dans cette histoire, à part que c'était la Tinder date de Salerno depuis très peu de temps. Elle avait pris de l'avance en prenant la fuite. Il y a un mandat d'arrestation qui sera émis contre elle et c'est finalement 2 mois après que Deal sera finalement appréhendé le 2 juin 2020. Elle se trouvait dans l'état du Colorado. C'est difficile de savoir ce qui s'est réellement produit entourant la mort de Mary. C'est pas évident parce que les 4 astis de monstres qui sont mêlés à ça veulent pas prendre le blâme. Mais d'après les éléments et les preuves découvertes dans l'enquête, ainsi que la déposition des suspects, on peut se faire une idée. Le 28 mars, avant que Mary arrive à l'appartement, semble-t-il que Salerno et America Deal s'y trouvaient déjà. Et je crois pas que les 4 avaient l'intention d'écouter des films car drogue et vice coulaient à flot. Cocaïne, Xanax, MDMA et alcool étaient au menu. La première version, ce serait que très peu de temps après son arrivée, Mary aurait eu une altercation avec Deal et que la suite des événements aurait très mal tourné. Dans la deuxième version, ce serait que Mary aurait été battue et tuée dû au fait qu'elle aurait refusé de participer dans un ménage à trois avec Lavery et femme. Et si c'est la vérité, je la comprends très bien, Chris, on dirait 2 vrais trolls. Semble-t-il qu'ils auraient même demandé à Mary Codill et qu'elle aurait elle aussi refusé. J'ai pas été en moyen de mettre la main sur les tests de toxicologie, mais semble-t-il que Mary aurait été aussi droguée à son insu, à l'aide de Xanax et possiblement à l'aide de MDMA. J'en ai déjà parlé antérieurement, je crois que c'est dans l'épisode de Susan Capper, mais étant un ancien polytoxicomane et ça pendant plusieurs années, je sais pas, prendre la drogue à mon insu ou de force, c'est de quoi qui me terrifie. Ensuite, c'est nébuleux, on sait pas trop qui c'est qui a fait quoi, mais tant qu'à moi, j'y tiens tous responsables à part égale pour la mort de Mary. Pour ce qui en est des procédures judiciaires, c'est le 30 juin 2022, plus de 2 ans après le meurtre, que Kelly Lavery plaidera coupable de meurtre au second degré, enlèvement, ainsi que des charges pour avoir dissimulé un cadavre. Un procès quand même chargé en émotions. Le procureur de la couronne a éclaté en sanglots alors qu'il expliquait les détails entourant la mort de Mary. Avant de recevoir sa sentence, Lavery a déclaré
« Je veux prier pour Mary, pour qu'elle soit en paix. » Et qu'elle comprenne que je suis désolé pour ce qui lui est arrivé.
Ce qui lui est arrivé, je pense que c'est pas le bon terme approprié, mais bien qu'est-ce que 4 astis dégénérés lui y ont fait subir. Elle s'est vue imposer une peine de 25 à 32 ans d'incarcération. Tant qu'à moi, j'espère qu'elle va y crever. Il a décidé de plaider non coupable aux charges pesant contre lui et est encore en attente de procès. Il n'a pas été libéré et il est encore incarcéré depuis son arrestation en 2020. En faisant mes recherches sur lui, ça m'a mené sur un site de rencontres pour détenus. Et oui, l'amour est dans l'air. Sur son profil, on peut y lire qu'il recherche à construire une relation d'amitié ou bien quelque chose de plus sérieux. Et que pour en savoir plus, juste à lui écrire. On voit que c'est un homme qui aime ça garder un peu de mystère. D'après sa fiche, ses occupations avant qu'il soit incarcéré, artiste peintre, design graphique, photographie, ainsi que vente et affaires. Et ses activités depuis qu'il a été incarcéré sont lire, écrire, jouer aux cartes, principalement au poker. Avec sa fiche, il a mis 2 photos de lui. Il y a une des 2 photos où on peut le voir à son meilleur. Il est passé hard sur une chaise assis. Puis on y voit même pas la face. Tout aussi bien de même, il y a une petite face de rat. Et maintenant, autour de James Salerno, Il a les mêmes charges criminelles que femme et tout comme lui, il a plaidé non coupable. Il a été incarcéré pendant près de 3 ans et pas plus tard que le 3 juin 2023, il a été libéré sous caution pour un montant de 250 000 $. Bien évidemment, cette décision n'a pas fait plaisir aux proches de Mary. L'avocat de Salerno a déclaré que les enquêteurs n'avaient aucune preuve concrète, aucun motif et aucun lien qui liait son client à la victime. Je pense qu'oublier les deux témoins qui ont déclaré que Salerno s'avait confié à eux, ainsi que la localisation de son téléphone personnel qui se trouvait sur les lieux du crime le soir du meurtre ainsi qu'après les faits. Dans ces conditions de libération, il n'y en avait pas vraiment à part qu'il devait rester chez ses parents, chose qu'il faisait déjà avant les événements. Il n'y a même pas eu d'interdit de contact avec les autres suspects dans l'histoire, ou même avec les proches de Mary. Le procureur de la couronne a tenté de contester la décision. Il a déclaré que Salerno est un individu très dangereux et qu'il y avait beaucoup de chances qu'il veuille se venger de America Deal à cause qu'elle avait collaboré avec les policiers. Mais, you know, dollar bill, yo, c'est ça, l'argent amène tout, donc il a pu être libéré sous condition. Un enfant modèle, c'est pas comme s'il avait pas fait un vol à main armée aussi en 2017. Pour terminer avec America Deal, sa Tinder date, elle aussi a été libérée sous condition. J'ai pas la date exacte, mais c'est en 2022. Mais pour Deal, la vie n'avait pas trop changé depuis la mort de Mary. Car elle était active sur les réseaux sociaux en postant des quotes et des messages assez déplacés vu sa situation. À peine un mois après la mort de Mary, le 29 avril 2020, Deal a publié une photo d'une liste de choses à faire. Voici ce qui était écrit. Numéro 1. Prier Dieu. Numéro 2. Enfreindre la loi. Numéro 3. Prendre ce qui me revient. Et numéro 4. En prendre encore plus. J'imagine que pour le numéro 3 et 4, elle devait pas parler de la sentence qu'elle risque de se faire imposer. C'est quelques jours après, le 5 mai, qu'elle publiait sur Facebook. Qui d'autre qui veut se faire supprimer de ma liste? Ça fait déjà 16 aujourd'hui. C'est qui le prochain? Pendant ce temps, elle a aussi publié une multitude de selfies avec 56 millions de filtres parce qu'elle ressemble pas du tout au mugshot que les policiers ont pris lors de son arrestation. Et aujourd'hui, elle est libre de vaguer à ses occupations en attendant son procès et continue à publier des conneries sur Facebook. Suite à tout ça, la mère de Mary, Casey, a déclaré que, en tant que mère, elle a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va la satisfaire, mais qu'elle désire que quelque chose se produise. À chaque jour, elle se questionne à savoir combien de temps il lui reste, combien de temps il lui reste à vivre sans sa fille Mary. Et ça fait pas mal le tour. Comme j'ai dit, c'est vraiment un dossier frustrant. J'ose même pas imaginer comment que les proches de Mary se sont sentis pendant tout ça. Avec des policiers incompétents qui ont pas pris la disparition au sérieux, ça devait être vraiment très enrageant. Il y a une page Facebook qui a été créée en sa mémoire, ainsi qu'un site officiel qui se nomme justiceformarysantina.com. Les liens sont dans la description de l'épisode et sont aussi disponibles sur le site officiel du podcast. Vite fait, en finissant, je voulais dire félicitations à Alex et Amy. Et je veux remercier aussi le reste des auditeurs qui ont écouté jusque-là la fin de l'épisode. Vous êtes des vrais de vrais. Et j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, à très bientôt. Et sinon, ben tant pis. Mais une chose qui est sûre, n'oubliez pas de barrer vos portes et fermer vos volets.
Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant.
Ha ha ha.